Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Avoir un bon Chopin, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Derrière Chopin, le compositeur de génie, se cachait un homme pétrifié par le trac.
Il va, mais j'ai peur !
Stéphane Bern nous raconte, sans fausse note, je l'espère, et avec beaucoup de dextérité, Frédéric Chopin, ou la vie compliquée d'un artiste passé à la postérité. Une chronique que je vais me permettre d'accompagner au clavier. Je m'installe. Allez-y Stéphane.
C'est beau, vous jouez très bien. Frédéric Chopin est le plus français des musiciens polonais et le plus polonais des compositeurs français. L'histoire de ce génie de la musique est d'une certaine manière le reflet de celle de son pays natal. Elle est douloureuse et compliquée. Au XIXe siècle, la Pologne fait régulièrement les frais des conflits entre les grands États qui l'entourent, la Prusse, l'Autriche et la Russie. En 1810, l'année de naissance de Frédéric Chopin, la Pologne est un duché, le duché de Varsovie. Et Chopin est donc bien polonais de naissance. Si son nom et son prénom sonnent français, c'est parce que son père, Nicolas Chopin, s'est mis quelques années plus tôt au service d'une comtesse comme précepteur avant d'épouser l'une de ses suivantes, Justina. C'est un mariage heureux. Le couple est bien assorti et de poste en poste, Nicolas Chopin s'impose dans la bonne société comme un intellectuel aisé. Justina est une compagne tout aussi brillante qui pratique le piano et le chant en amatrice, mais avec beaucoup de talent. Frédéric, le cadet de la famille Chopin, grandit donc dans une famille aimante et en vue, ce qui lui permet de se frotter à la culture et aux codes de la bourgeoisie aisée. Grâce à sa maman, très jeune, Chopin se retrouve devant un piano et il ne faut pas très longtemps pour découvrir que le petit Frédéric est extrêmement doué. C'est un enfant prodige qui développe à toute allure sa propre technique, son propre jeu, sans suivre une méthode rigide, presque en autodidacte. Le résultat est stupéfiant. À 8 ans, Chopin est déjà un virtuose qu'on se bat pour écouter dans le cadre feutré des salons de Varsovie, un peu comme Mozart en son temps. Mais là où le père de Mozart avait baladé son fils aux quatre coins de l'Europe, presque comme une bête curieuse, les Chopin décident de protéger leur fils qui grandit normalement. Chopin est un prodige, mais un prodige que l'on n'oblige jamais à se produire dans de grandes salles de concert. En 1830, la grande histoire bouleverse celle de Chopin. Alors qu'il est installé à Vienne depuis quelques mois, la Pologne se révolte contre l'absolutisme du tsar Nicolas Ier de Russie, qui réagit en réprimant violemment la révolte populaire. Comme beaucoup d'autres Polonais, Frédéric Chopin se tourne alors vers le pays de son père, la France. Assez vite, il s'impose comme une figure de premier plan de la scène culturelle et musicale parisienne. Sa virtuosité, son toucher et son jeu exceptionnel en font vite l'égal d'un autre pianiste de génie, dont il devient d'ailleurs très vite l'ami, le Hongrois Franz Liszt, qui a le même âge que lui. Les deux musiciens sont aussi doués l'un que l'autre. Leur jeu est aussi incroyable techniquement, mais leur style et leur composition, très différentes, reflètent deux faces du courant romantique. Franz Liszt, c'est la fougue et la puissance. Chopin, c'est la douceur, la délicatesse et la mélancolie qui s'expriment dans ses célèbres études, toutes plus dures à exécuter les unes que les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Mathieu, mais c'est,
oui,
c'est
mais très difficile. Chopin, j'ai essayé, oui. Mais Liszt, là, c'est encore plus dur, à mon avis, Stéphane.
Mais il n'y a pas que leur style qui distingue les deux hommes. Franz Liszt, comme Mozart avant lui, a été un enfant star, rodé au spectacle et à la foule depuis son plus jeune âge. C'est une bête de scène habituée à livrer concert sur concert devant des salles combles. Chopin, c'est tout l'inverse. D'abord, il a toujours été d'un tempérament timide. Mais c'est aussi un jeune homme fragile à cause d'une vilaine maladie des poumons qu'il traîne depuis des années. La maladie qui l'épuise s'ajoute à la tristesse de l'exil, loin de sa Pologne qu'il aime tant. Alors, très peu pour lui, les concerts. Il préfère vivre en composant, en donnant des leçons aux femmes et aux enfants de bonne famille, et en organisant de petits concerts privés chez lui ou dans les salons de la haute société. Des concerts privés, en somme, qui se tiennent à la lueur tremblante des bougies sur un piano volontairement laissé dans l'ombre, le plus souvent un Pleyel, que Chopin apprécie pour ses sonorités subtiles et douces. Non seulement cela lui suffit pour vivre tout à fait confortablement, mais c'est là qu'il croise l'amour de sa vie, celle qui va devenir sa compagne pendant 8 ans, Aurore Dupin, ou plutôt George Sand, romancière, féministe et femme de lettres, qui est alors au sommet de son art et qui tombe amoureuse de ce virtuose qui incarne si bien le courant romantique. Pendant que Franz Liszt sillonne l'Europe, Chopin reste un sédentaire qui donne bien quelques récitals dans de grandes salles, un par an tout au plus, mais qui écrit ceci à son ami Franz. « Je ne suis pas propre à donner des concerts, moi, que le public intimide et qui me sent asphyxié par ses haleines, paralysé par ses regards curieux, muet devant ses visages étrangers. » George Sand ne dit pas autre chose. Dans une lettre à une amie, elle confie à propos de son compagnon « Il ne veut pas d'affiches, il ne veut pas de programme, il ne veut pas de public, il ne veut pas qu'on en parle. Il est effrayé par tant de choses que je lui propose de jouer sans chandelle et sans auditeur sur un piano muet. » Moqueuse et pas tendre avec lui, c'est vrai. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de la relation entre Frédéric Chopin et George Sand. Ils s'adorent, mais la maladie du pianiste pèse sur leur relation. La tuberculose le rend angoissé et difficile à supporter. Et leur union, qui ressemble de plus en plus à la relation d'une mère et d'un enfant capricieux, commence à en souffrir. Pour ne rien arranger, la santé de Chopin se dégrade brusquement en 1838. Cette année-là, George Sand et lui décident d'aller passer l'hiver sur l'île de Majorque, au monastère de Valldemossa. C'est une très mauvaise idée parce que le cadre des Baléares est enchanteur, mais il faut dire que l'île est particulièrement humide en hiver, ce qui, il faut le dire, n'est jamais très bon quand vous souffrez de la tuberculose. Une fois de retour à Paris, Chopin se rétablit, mais l'ombre de la tuberculose ne le laisse jamais en paix, ce qui dégrade encore plus sa relation avec George Sand. C'est d'ailleurs visible dans les lettres qu'elle lui envoie et qui commencent d'abord par « mon cher malade » avant de continuer avec « mon petit souffreteux » pour aller carrément à « mon cher cadavre » lorsque la santé de Chopin commence vraiment à vaciller. En 1848, à 38 ans, Chopin finit par rompre avec George Sand. Le moment est très dur pour le compositeur qui accepte pourtant, malgré le trac et la fatigue de la maladie, d'entamer une tournée de 7 mois en Angleterre et en Écosse à la demande d'une de ses anciennes élèves. Chopin arrive alors à Londres en avril 1848, une ville dont l'air est chargé de la poussière de charbon rejetée par toutes les usines qui poussent comme des champignons en pleine révolution industrielle. Chopin parvient à donner quelques concerts pour la fine fleur de l'aristocratie anglaise et joue même devant la reine Victoria et le prince Albert, mais le voyage et les représentations l'épuisent. Une fois encore, le trac le gagne et il se sent oppressé par la foule et les applaudissements. Ils finiront par m'étouffer par leur gentillesse et moi par gentillesse, je les laisserai faire, expliquera-t-il. Son état s'aggrave et Chopin contraint de rentrer en France où il vit des moments terribles sans pouvoir quitter le lit ou le sofa, continue de donner quelques leçons. Mais le 17 octobre 1849, Frédéric Chopin s'éteint chez lui, au 12 place Vendôme, à 39 ans seulement, entouré par ses amis et sa sœur Ludwika. Il est enterré quelques jours plus tard, au son de sa propre musique, la célèbre marche funèbre. Un dernier concert, en somme, devant une foule silencieuse et nombreuse, qui cette fois ne pouvait plus lui faire peur.
Europe 1, historiquement vôtre.